patronat britannique. La réforme sur le licenciement doit être adoptée en avril. L'idée est de réduire les retards en cas de restructuration de l'entreprise, mais aussi permettre aux salariés affectés de retrouver rapidement un nouvel emploi. L'armateur allemand du chalutier géant retenu à Cherbourg a été condamné cet après-midi à payer 580 000 euros d'amende. Mais pour pouvoir quitter le port de la Pointe du Cotentin, il devra aussi s'acquitter de plus d'un million d'euros de caution. L'argent du Nobel de la paix, l'Union européenne a décidé aujourd'hui qu'il irait aux enfants victimes de guerre. Il permettra donc de donner à ces enfants un accès à l'enseignement de base et à des lieux d'accueil adaptés à leurs besoins. La reine Elisabeth II a assisté aujourd'hui à son premier conseil des ministres, une première en 60 ans de règne en Grande-Bretagne. Selon un porte-parole de Downing Street, la reine d'Angleterre s'est exprimée à deux reprises. Elle a parlé de son futur discours lors de l'ouverture de la session parlementaire, puis elle a souhaité aussi un joyeux Noël aux participants. En retour, Elisabeth II a quand même reçu 67 de tables fait main. Vous écoutez France Inter, 15h03.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ce vendredi 21 décembre.
The Martians are coming.
Dites-vous que tout le monde a peur.
Réfugiez-vous sur France Inter et France 5.
Ça va aller.
On vous donnera toutes les astuces
pour apprivoiser les peurs qui vous hantent.
Étudions la peur au lieu de la subir.
Profitez-en aussi pour vous débarrasser de vos pires cauchemars.
Sur franceinter.fr, le forum Votre pire cauchemar vous propose de vous livrer et de nous raconter votre souvenir de cauchemar le plus terrifiant.
Is this scary?
Même pas peur. Toute une journée à vivre ensemble sur France Inter et France 5 en partenariat avec le Huffington Post. France Inter,
la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet sur France Inter. C'est maintenant et c'est avec le répondeur. Eh ben oui.
Le 21 décembre, la fin du monde, l'apocalypse. On va tous disparaître dans le feu de l'enfer. Le maelstrom de lave en fusion qui va faire disparaître notre monde servile, pourri jusqu'à la moelle. Adieu le monde, adieu les hommes.
Bonjour, c'est Sylviane de Paris. Je viens d'entendre les informations de 13h sur France Inter. Je comptais avoir plus d'informations sur l'excellente nouvelle qui nous avait été annoncée, à savoir que Ciné avait enfin gagné son procès contre Charlie Hebdo. Bravo, vive Ciné, on va tous faire la fête. Et ben ça continue quoi. La justice, elle peut encore marcher, ça fait du bien.
Lors de son intervention relative à l'horrible tuerie dans cette école américaine, il était émouvant, M. Obama, essuyant pudiquement du bout de ses doigts des larmes naissantes ou à venir. Mais d'après l'ONG War Cost, le prix de la guerre en français, au 4 décembre 2012, 178 enfants pakistanais et yéménites ont été massacrés par les drones américains. Ces soldats silencieux sans âme, téléguidés, initialement prévus pour l'observation de l'ennemi. M. Obama, chef des armées américaines, ou qui est un farouche partisan et décideur de l'emploi de ces machines à tuer. Dans cette école américaine, les enfants ont été massacrés par un individu sûrement déséquilibré. Mais au Pakistan et au Yémen, les 178 enfants ont été liquidés, faisant partie des quelques 777 civils victimes classées dégâts collatéraux par l'armée Yankee. Monsieur Obama, chef des armées, quand vous passerez tendrement votre main sur les cheveux de vos gamins, ayez une petite pensée pour ces jouets made in USA qui planent ailleurs dans le ciel. Très loin, très loin, très loin de chez vous. C'était Jackie à Adjolfi.
Quel plaisir d'entendre Georges Cornes, enfin. Après 2 ans de discours de spécialistes autoproclamés de la question au Proche-Orient, enfin le véritable spécialiste de la question qui est convié. Merci beaucoup d'avoir organisé cette émission. Merci mille fois. Merci Monsieur Cornes de pouvoir vous réentendre sur le sujet et de permettre de mettre un peu de clarté, enfin, sur le débat sur le Proche-Orient.
Merci pour ces messages, chers AMG. Merci pour notre ami Georges Cornes, qu'on retrouve aujourd'hui. Comme promis, hier, on se disait de tous les plaisirs de la vie. Chacun peut faire la liste des plaisirs qui sont les siens, mais il y en a un quand même qui est très, très puissant, très profond et parfois même violent. C'est ce plaisir qu'on a lorsqu'on comprend quelque chose. Ah, tout d'un coup, quelque chose s'éclaire, quelqu'un vous dit, vous lisez, vous regardez, enfin, ça provient pas nécessairement de ceux qui font profession d'être les éclaireurs, les phares de la pensée, ça peut venir de n'importe où. Mais à chaque fois, quand ça arrive, c'est un immense plaisir, parfois imprévisible, mais enfin c'est un plaisir une fois qu'on en a le goût que l'on recherche, et j'espère que c'est ce que nous allons faire ensemble jusqu'à 16 heures, c'est le plaisir de comprendre l'Europe. Enfin, la façon dont Georges Cormes voit l'Europe, il y a sans doute, bien sûr, beaucoup d'autres façons. Je rappelle qui est Georges Cormes. Il est libanais, historien, économiste, conseiller d'un certain nombre d'institutions internationales, enseignant. Il a été ministre des Finances de son pays, le Liban, et il est l'auteur d'une série de bouquins qui quand même ont presque toujours le Proche-Orient et le Moyen-Orient pour objet, même si là, avec ce travail sur l'Europe et le mythe de l'Occident, la construction d'une histoire, comment s'est construit les mythes, comment se sont construits les mythes européens, d'où vient l'idée que nous nous faisons de cette Europe et que l'on nous fait de cette Europe, comment s'est construit aussi l'image que nous avons de l'Occident que l'on oppose depuis finalement un certain temps, mais assez bref, à l'Orient, enfin, d'Orient sauvage, sous une burqa, et derrière des visages barbus et menaçants. C'est un peu ces images qui se sont construites ces dernières années, suite à sa fameuse théorie de la guerre des civilisations, reprise à l'envi lors des guerres et de l'Irak et de l'Afghanistan, et qui s'est inscrit profondément, qui a infiltré les imaginaires jusqu'à devenir une sorte d'évidence. Comment s'est construite cette Europe, la construction, l'emboîtement de ces mythes, comment beaucoup de choses ont été mises de côté, frappées d'alignement dans un intérêt souvent dicté par l'intérêt économique, mais pas seulement, c'est ce qui va nous intéresser jusqu'à 16 heures dans la base. Si j'y suis, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ouais, je vous appelle parce que j'ai un chercheur d'emploi. Je vais donc sur le site de Pôle emploi histoire de voir si je peux trouver quelque chose. Et je vois dans les actualités de Pôle emploi un papier sur l'univers du luxe, dont il est dit que c'est un univers fascinant. Le luxe déjoue la crise par une santé de fer, une croissance continue depuis 2010 et un avenir qui s'avère prometteur. Un univers étincelant où se côtoie une myriade de professionnels, des artisans d'art. Aux conseillers de vente, en passant par le marketing, le secteur recrute tout particulièrement des métiers manuels. Mais sans déconner quoi, ils ont pas honte les types. Enfin, ils font pas de relation de cause à effet entre l'expansion de ce secteur-là et le fait que moi, je sois comme un gland obligé de traîner sur Pôle emploi qui est infoutu de me trouver un boulot.
Salut Daniel, c'est Damien. Eh bien, un petit message pour te dire qu'il y aura un festival de soutien à la ZAD à Notre-Dame-des-Landes le 4 et 5 janvier 2013 avec Kenny Arcana, RPZ, HKL Saltimbanque et plein d'autres gens engagés. Donc venez tous soutenir la ZAD. Voilà, à plus.
Bonjour le répondeur, nous sommes les salariés de Presstalis, l'agence de Lyon. Nous sommes en train de déposer de la presse parisienne devant le siège du MEDEF de Rhône-Alpes. Nous ne sommes toujours pas médiatisés alors qu'il va y avoir 1250 suppressions d'emplois dans la presse, dans la distribution de la presse, donc en direct devant le MEDEF, le siège du MEDEF à Lyon. D'autres mouvements sont prévus sur toute la France, toutes les nuits, tous les jours, et personne n'en parle. Merci encore. Roland de Lyon.
européens. Inspirez-vous des révoltes arabes. Il faut que les deux rives se révoltent. Parce que aussi, les révoltes de mon côté de la Méditerranée sont le produit d'un néolibéralisme de façade qui a accru la corruption, la concentration de richesses aux mains de quelques-uns et les injustices sociales.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est La Baisse où j'y suis avec Georges Cormes. L'Europe et le mythe de l'Occident, la construction d'une histoire. Flight number 2, arriving from New York. Georges Cormes, j'ai un tas de bouquins dont vous êtes l'auteur pour une lecture profane des conflits dont nous avons déjà parlé, mais j'aimerais bien qu'on parle là plus précisément de l'Europe et le mythe de l'Occident. Et alors, ce bouquin est très dense, très érudit. Quand on est arrivé dans le studio, je vous demandais combien de temps vous avez mis pour écrire ça. Vous me dites, oh, j'ai dû commencer à y penser quand j'avais 10 ans. Je ne sais pas très bien l'âge que vous avez, mais ça fait quand même
je vous ai dit,
des années de boulot.
Il y a probablement 30 ans de lecture approfondie sur l'histoire de l'Europe, qui est une histoire très riche, très intéressante, mais où... J'ai été assez gêné dans de précédents ouvrages. D'ailleurs, j'ai commencé à déconstruire le récit que l'Europe fait de sa propre histoire.
Mais d'abord, dites-moi, quelle différence, pour qu'on s'entende bien, Europe et Occident, quelle différence faites-vous entre ces deux mots ?
Je vais vous dire, Occident est une notion purement politique et émotionnelle. Et aujourd'hui, sa seule concrétisation pratique est cette alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. Mais dans la réalité des choses, l'Europe elle-même reste tellement diverse. L'Europe est un assemblage de civilisations.
Très différentes.
Bien sûr, entre l'Europe du Nord, scandinave ou de l'Allemagne du Nord, et l'Europe du Sud, par exemple, c'est des milieux complètement différents, n'est-ce pas ? Et donc, cette vision d'une Europe qui aurait toujours été unie. Alors, c'est vrai que vous avez eu la période où le catholicisme a dominé, l'Église catholique assurait une homogénéité au niveau des élites et où il y avait la langue commune qui était le latin, n'est-ce pas ? Mais une fois que le latin s'est effondré, la seule langue commune qu'a eu l'Europe et que je décris avec beaucoup de tendresse, c'est la musique.
Oui.
On peut beaucoup déconstruire ou dénigrer l'Europe, mais on ne peut pas lui enlever le fait que sur le plan musical, je pense
que
l'Europe est incomparable.
Vous mettez deux figures, vous parlez de la musique, vous parlez de Mozart, et vous dites c'est Mozart et Hitler l'Europe. Quoi. Il y a deux faces, à cette, à cette figure,
une face radieuse,
merveilleuse, etc. Et l'imbécilité la plus nulle, la plus obscure, qui est celle d'Hitler. C'est pour ça que, pour revenir à notre ami Guéant, qui vante la civilisation, la nôtre, dit-il, c'est très difficile de la défendre. Si, évidemment, si on pense à Voltaire, à Mozart, et à Picasso, etc., bien sûr, ça, c'est le côté ensoleillé, les lumières, littéralement. Mais il y a cette partie d'ombre qui est extrêmement prégnante. Vous évoquiez les conquêtes, les ethnocides dans les Amériques, la traite négrière, les colonisations, les destructions, les génocides, les guerres nationalistes, la première guerre mondiale.
Les guerres nationalistes,
absolument épouvantables. Comment arriver à une définition de cette Europe ou quelles sont les différentes étapes de ce voyage qu'on peut faire en Europe ?
Oui, alors justement, moi c'est déconstruire les grands récits épiques sur l'histoire de l'Europe pour arriver à démontrer que l'unité du continent européen est l'état normal de l'Europe. On a stylisé l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a écarté tout ce qui pouvait montrer que l'Europe n'était pas une, que l'Europe était très diverse, que l'Europe a été un des continents le plus petit, mais le plus guerrier de tous les autres continents. Et d'abord entre eux, qu'est-ce que ce ne sont pas fait les Européens entre eux ? Que la dichotomie, la fameuse dichotomie Orient-Occident, elle n'est pas née avec l'islam. Elle est née à l'intérieur même de l'Europe romaine. La division entre un empire romain d'Orient et un empire romain d'Occident. Et puis la division entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'islam n'a rien à faire là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu, n'est-ce pas, que la division, c'est l'islam qui l'a faite. La division, elle existait, si on veut, même avant, les Romains et les Carthaginois. Et donc, on a ici, si vous voulez, des contre-vérités historiques contre lesquelles je m'insurge. Et je m'insurge même, y compris Raymond Aron dans sa vision, mais beaucoup d'autres auteurs, faire l'impasse sur toutes les violences que les Européens se sont fait à eux-mêmes. Et à la limite, je dis, c'est parce qu'ils se sont fait tellement de violences à eux-mêmes qu'ils commettent d'autres violences dehors sans état d'âme. La matrice du totalitarisme moderne, ce n'est pas l'épisode de la terreur de la Révolution française, qui a duré 4-5 ans. La matrice, c'est la lutte contre les hérétiques, le bûcher, et ensuite les guerres de religion, où vous voulez absolument annihiler l'autre. Oui, votre voisin, ça. Voisin.
Jusqu'au dernier.
Jusqu'au dernier.
Dieu reconnaîtra les siens.
Oui, jusqu'au dernier. C'est ça la guerre totalitaire moderne. C'est pas l'épisode de la terreur qui est un dérapage tout à fait condamnable, n'est-ce pas, de la Révolution française. Mais ce n'est pas ça qui est la matrice du totalitarisme moderne, parce que ça n'a duré qu'un temps. Par contre, les guerres de religion, c'était 150 ans. Il en est résulté ce principe terrible qui s'appelle « cujus regio et jus religio », c'est-à-dire que les gens doivent suivre la religion catholique ou protestante de leur roi ou de leur prince. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers déplacements forcés de population. Ah, vous ne voulez pas redevenir catholique parce que le roi de France doit être catholique? Eh bien, vous quittez. Les édits de Nantes, et puis on le révoque. Alors, vous avez les déplacements en force. Et donc, tout ça échappe. Aujourd'hui, vous avez une espèce d'idéalisation. Et ce que j'appelle aussi une orthodoxie de ce qu'est l'Occident. Ou alors, on mêle les phénomènes les plus divers à des siècles d'intervalle. On dit, oui, il y a la démocratie grecque, et puis il y a l'esprit de la loi romaine, et puis il y a le christianisme, et puis il y a ceci, et puis... C'est complètement hétéroclite. Ce ne sont pas des événements qu'on peut relier entre eux. Ce sont des étapes historiques totalement différentes. Et on ne peut pas imposer comme ça une vision où finalement on appauvrit la richesse du continent européen. Et il est riche parce qu'il y a tellement de civilisations, où il y a tellement de cultures. Alors il faut faire la différence entre culture et civilisation. Personnellement, je préfère parler de culture. La civilisation, comme dirait Spengler, que moi j'aime bien, même s'il a mauvaise réputation, la civilisation, c'est une culture qui s'est figée, qui n'est plus vivante, et qu'on impose par la force. Et d'ailleurs, à l'époque, là, bon, je retrace les querelles entre l'Allemagne, avec un, je prends comme témoin le très grand romancier allemand, Thomas Mann, qui voit dans la démocratie, et lui parle d'Occident, l'Occident c'est l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire c'est la France et l'Angleterre essentiellement, il dit la démocratie mais c'est la dégénérescence. Il dit la démocratie, c'est la marchandisation de la culture. La démocratie, c'est l'affaiblissement de la culture. C'est apocalyptique, la description. Et il dit c'est l'Allemagne qui garde les valeurs traditionnelles, notamment du christianisme et du christianisme protestant. Parce que le protestantisme est resté mystique et l'Allemagne est restée religieuse. Il faut lire tous ces textes. Là, on les écarte. On a reconstruit une histoire mythique de l'Europe, où on écarte tout ce qui ne va pas dans le sens « mais de tout temps, nous sommes les Occidentaux, nous sommes les meilleurs, nous sommes la grande civilisation ».
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées, et c'est un même système qui y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants confréries, chefs des multinationales. Chiffres économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marché. marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire. Pour vous faire croire en ce qu'il faut, si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contrées riches, chefs et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis le masque pour la masse qui fait confiance dès le départ. Le tout poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial, nouvel ordre mondial. Sur l'échiquier, je vais toujours 10 coups d'avance. Moi j'ai rendu une main carrée pour qu'il oublie sa dernière chance.
La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Monsieur Deloncle prend la parole.
J'envoie à Vichy les généraux de division Lavigne, Delvigne et Hassler afin d'une part qu'ils se mettent en contact avec le maréchal et son gouvernement et d'autre part qu'ils organisent le recrutement dans la zone non occupée. Si nous savons garder notre foi et discipliner nos efforts, nous saurons donner au monde étonné l'exemple d'une renaissance qui dépassera en grandeur toutes celles de notre histoire. Mes amis, l'Europe est en marche, rien ne l'arrêtera.
L'exposé de Marcel Déa.
Même si demain, le salut de la France ne devait être confié qu'à l'effort privé, à l'effort volontaire des légionnaires, je suis sûr que cela, vous l'accomplirez. Vous l'accomplirez ensemble jusqu'au bout et que la France sera sauvée.
Clémenti.
Ce n'est pas la France qui a été battue. Ce n'est pas le peuple français. C'est la bande de salons, de gîtes et de capitalistes qui nous dirigeaient.
L'âge d'Orio.
La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous.
Des bureaux d'engagement ont été ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Le bolchevisme battu fera l'Europe unie.
À travers ce document de 1941, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme se constitue, s'est réunie et dans la voix des orateurs présents, on voit ce qu'était l'Europe pour eux. L'Europe, c'était l'alliance avec l'Allemagne, avec l'Italie fasciste, avec l'Allemagne nazie contre le bolchevisme, la France dans l'Europe contre le bolchevisme. Il fallait être unis également, mais c'était secondaire contre l'Angleterre, contre l'Amérique. Voilà, une définition qui a pu être donnée à un moment d'une manière très forte et très profonde de l'Europe. Les choses ont changé, mais on vous fait entendre ce document pour montrer que, voilà, on peut donner à un continent si multiple et si contradictoire des significations très différentes. L'Europe ne va pas de soi. On est toujours avec Georges Cormes autour de son livre « L'Europe et le mythe de l'Occident ». C'est important de savoir tout ça, ou d'essayer de comprendre un peu tout ça, pour savoir un petit peu qui nous sommes. En 1990, à Prague, dans l'effervescence de ce qu'on avait appelé la révolution de velours, dans la liesse générale, les autorités, enfin ceux qui étaient dans ce mouvement, avaient fait une magnifique exposition dans la ville de Prague, partout, qui était « Qui sommes-nous ?» Dans les vitrines, partout, dans les rues, il y avait des choses, des objets, des panneaux, des livres, des costumes, etc., pour se demander qui sommes-nous maintenant, nous, de cette ville de Prague, nous les Tchèques, et qui sommes-nous ? On devrait faire la même chose pour l'Europe.
Ah, je pense.
Votre bouquin pourrait servir de scénario.
Je pense d'autant qu'aujourd'hui, l'Europe se résume à quoi ? Il se résume à cette zone de libre-échange qui détruit des emplois, qui déracine des communautés, et ça ne va pas. On voit très bien que ça ne va pas. Puis quand on voit ce qui arrive aux malheureux Grecs, et qui va arriver demain aux Espagnols, qui gâtent les Portugais, on se dit, mais ça ne peut pas être ça l'Europe, c'est pas possible.
Ce qui est important aussi dans cette idée que nous nous faisons de l'Europe, c'est le rayonnement de l'Europe quand même. L'Europe est une référence pour le monde entier. Il y a une influence, il y a un rayonnement, il y a un universalisme européen qui sert de référence à beaucoup des autres peuples. Alors, vous venez de décrire une Europe complètement du libre-échange, l'Europe de l'avidité la plus égoïste, celle des eaux glacées des calculs égoïstes, c'est ce que vous décrivez, et en même temps, il y a toujours ce qui subsiste, c'est cette Europe des Lumières, cette Europe universelle.
Oui, mais qui est très dénigrée, cette Europe des Lumières. Et quant à l'Europe universelle, elle est dévoyée par la politique des droits de l'homme, telle qu'elle est faite en politique internationale, où les alliés qui peuvent être les plus terribles dictatures sont à l'abri de reproches sur les droits de l'homme ou de la femme, et puis les régimes politiques qui ne nous plaisent pas, alors on leur tombe dessus au nom de cet universalisme des droits de l'homme. Ça ne va pas, ça décrédibilise l'idée même d'universalisme et l'idée même des droits de l'homme. Et là, il faut véritablement faire très attention. Mais aujourd'hui, pourquoi les notions d'Orient et d'Occident n'ont aucun sens? Parce que le monde entier s'est occidentalisé. Y compris les mouvements radicaux islamiques, ils sont occidentalisés quelque part. Moi, ils me rappelleraient des combattants des guerres de religion en Europe, par exemple. On ne peut plus parler d'un Occident et d'un Orient. Regardez, les Japonais sont occidentalisés, les Chinois sont occidentalisés, les Hindous s'occidentalisent. Le monde entier est occidentalisé. Alors on a l'impression qu'il y a des combats d'arrière-garde qui sont faits au Moyen-Orient et pour des raisons géopolitiques. On ne veut pas que cette région, qui est une région stratégique, parce que c'est un carrefour géographique extrêmement stratégique, parce que c'est un réservoir énergétique important pour le monde entier et que les États-Unis voudraient bien continuer de contrôler, ne serait-ce que pour embêter la Chine qui fait de plus en plus peur aux États-Unis. Et puis troisièmement, on peut instrumentaliser le religieux au Moyen-Orient d'autant plus facilement que c'est la terre d'origine des trois monothéismes. Et dans d'autres ouvrages, j'ai beaucoup parlé de la prégnance de l'archétype biblique de l'Ancien Testament dans les nationalismes modernes, ou aujourd'hui dans ces idéologies méga-identitaires qui sont des idéologies du salut. Le marxisme était une idéologie du salut.
Salut terrestre, oui.
Oui, et puis c'était le prolétaire qui allait sauver l'humanité. Pas le Christ, mais le prolétaire. Mmh. Aujourd'hui, vous avez la même chose. C'est-à-dire, c'est l'homme d'affaires avec l'attaché caisse qui est le sauveur du monde. Après que ça ait été... On est toujours dans un archétype d'Ancien Testament. Et puis, vous avez les grands prophètes. Les Fukuyama, les Milton Friedman, les Huntington...
Ce que vous rappelez, c'est que cette histoire de l'Europe, c'est une histoire des idées. Vous citez Marx, qui parlait de l'incendie allumé par les idées. Ouais. Et tout ça, finalement, c'est des idées, c'est des visions, c'est le fruit du travail des philosophes, des écrivains, des poètes, etc. Mais de tout ça, il n'y a aucune sorte de certitude. Ce qui est assez encourageant, parce qu'on se dit, si des idées ont produit ça, en produisant d'autres idées, on produira peut-être autre chose.
Oui, moi je pense, personnellement. Moi, j'ai été très influencé par un très bel ouvrage de Marc Crépon qui s'appelle « Les géographies de l'esprit », qui malheureusement n'est pas assez connu, mais je pense que tous les journalistes devraient le lire. Voyez vous-même, vous le.
Non, non, je connais pas.
C'est un ouvrage remarquable, paru aux éditions Payot, et qui montre aussi comment se sont formés tous les clichés des Européens les uns sur les autres. L'italien est comme ci, le français est comme ça, l'allemand est ceci ou cela. Il appelle ça la géographie de l'esprit. Orient-Occident, c'est une géographie de l'esprit. Et l'imaginaire peut créer des frontières beaucoup plus redoutables que les frontières naturelles. Quand on est enfermé dans un imaginaire et que cet imaginaire a construit un énorme mythe, c'est pas facile d'en sortir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, les déconstructeurs, ce que moi je suis un peu, mais avec d'autres, où l'esprit critique est mal vu, où les gens n'aiment pas ça, ça dérange. Le mythe donne une telle certitude, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Occident judéo-chrétien, par exemple. Il y a 30 ans, 40 ans, l'expression n'existait pas. On parlait, et les racines de l'Occident supposées étaient gréco-romaines. On parlait même pas des racines chrétiennes. Et quand j'ai vu les débats pour la Constitution européenne sur mentionne-t-on le patrimoine chrétien de l'Europe ou pas, je trouvais ça surréaliste, parce que c'est un fait historique que le christianisme a longtemps marqué, à ce moment, les civilisations européennes.
La vérole sur vos gueules. Je répète. La vérole sur vos gueules. La vieille Europe est la maquerelle des balais roses. Deux fois. Quand les sirènes se taisent, les rapaces gueulent. Je répète. Quand les sirènes se taisent, les rapaces gueulent.
Cette histoire de l'Europe, vous nous dites, oui, on a éradiqué, on a enlevé tout ce qui gênait, dans le but d'une construction d'un grand mythe européen. Après tout, c'est ce que font les historiens, c'est ce à quoi servent les historiens, à raconter les histoires nécessaires aux politiques du présent, quoi.
Pas toujours, mais...
Oui, il y a des réfractaires.
Alors, c'est plus ce que moi j'appelle les spécialistes de la mémoire, ceux qui construisent les mémoires. Un bon historien ne construit pas de mémoire. Un bon historien explique la complexité des événements historiques. La mémoire, c'est la simplification de la complexité de l'événement historique. On fait un tri. On garde certains événements, on les gonfle en importance, et on oublie tous les autres événements. Et je dis, la mémoire est contre l'histoire. Et je dis, en fait, moi, je parlerai beaucoup plus de choc de mémoire traumatique que de choc de civilisation. Notamment quand je prends le conflit israélo-palestinien. Vous avez la mémoire traumatique européenne, compte tenu de toute l'histoire de l'antisémitisme et puis du génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis vous avez le traumatisme inverse de l'autre côté de la Méditerranée. On a été chassé d'Espagne, on a reçu les croisades, on a été colonisé en direct, et puis maintenant on a une croisade judéo-chrétienne qui soutient l'État d'Israël. Et on le pensera d'autant plus facilement que l'Occident, brusquement, cesse de dire qu'il est gréco-romain, il devient judéo-chrétien. Là, vous avez des chocs de mémoire historique qu'il faut déconstruire pour travailler pour la paix et pour pouvoir amener des solutions.
Mais encore une fois, comment est-ce qu'on déconstruit ? Par des livres ? Par des politiques ?
Parfois, vous pouvez avoir des chefs d'État impertinents qui ont... Mais ceux-là, ils sont gênants, et donc souvent, on les écarte. Vous pouvez avoir, alors, mais ça, à mon avis, c'est pas la bonne technique, le chef d'État qui fait de la provocation, style Ahmadinejad, et donc il va renforcer la mémoire traumatique du côté européen et israélien. Moi, je pense qu'il faut continuer dans toute une tradition, n'est-ce pas, et qui n'est pas qu'européenne. Si vous prenez, d'ailleurs, dans les premiers siècles de la civilisation arabo-islamique, l'esprit critique était là. Les façons d'interpréter le Coran étaient libres. Et vous aviez une soixantaine de façons d'interpréter le Coran à l'époque. Bon, qui a instauré la liberté religieuse, à la limite, hein, dans l'autre monde monothéiste, ça a été l'islam des premiers siècles. Qui d'ailleurs, combien il a développé les sciences mathématiques, l'astronomie, la médecine, et combien il a retravaillé la philosophie grecque. Et il a essayé de concilier la philosophie avec la foi, ce qui a été, si vous voulez, un questionnement qui a remis en route une renaissance européenne aussi, hein, parce que ça a été repris par les hommes de religion européens, notamment saint Thomas d'Aquin. Donc, ce qui est aujourd'hui, c'est l'ironie de l'histoire, hein, ceux qui ont installé la liberté religieuse les premiers dans le monde monothéiste, aujourd'hui, sont ceux qui la refusent, parce que vous avez aussi l'Arabie saoudite, avec un système ultra-conservateur, ultra-rigoriste, qui n'en veut pas. Et l'Europe, elle, aujourd'hui, ne voit l'islam qu'à travers, justement, un islam décadent, comme si le reste n'avait jamais existé. Et on a des dialogues de sourds. Et alors, quand on vous dit, bon, on va faire un dialogue de religion, c'est épouvantable. Parce que vous figez encore plus les positions. Et puis, comment peut-on se permettre de parler au nom, par exemple, de l'islam ? Qui peut se permettre ? L'islam est tellement divers. Mmh. Il y a tellement de façons de pratiquer l'islam, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Qui peut avoir le culot de dire, moi, je parle au nom de l'islam, ou moi, je parle au nom du catholicisme, ou moi, je parle au nom du protestantisme, ou moi, je parle au nom du judaïsme ? Combien vous avez aussi dans le judaïsme de façon de penser la religion de façon différente? Combien vous avez aussi, par exemple, je pense au groupe les Torah Karta, qui conteste même l'existence de l'État d'Israël, qui dit l'État d'Israël doit être réalisé par la volonté divine et pas par... Mais ça, personne n'en parle. Vous voyez, tous les dissidents, tous ceux qui ont l'esprit critique sont écartés aujourd'hui.
Les sangliers sont lâchés. Je répète. Les sangliers sont lâchés. Les petits patrons font les grandes rivières de diamants. Deux fois. Les roses de l'Europe sont le festin de Satan. Je répète, les roses de l'Europe sont le festin de Satan.
Georges Corme, pour revenir à l'Europe, vous évoquiez l'Europe d'aujourd'hui, cette Europe de Bruxelles, cette Europe de la BCE, cette Europe qui est une faillite totale. Vous évoquiez le cas de nos amis grecs, espagnols, portugais, et puis nous qui sommes guettés par le même désastre. Et on nous avait promis l'Europe des peuples, on nous avait promis l'Europe sociale. On faisait écouter Beethoven aux enfants dans les écoles. C'est une faillite totale. À quoi est-ce qu'on peut se raccrocher quand on est européen? À une identité nationale? À quoi est-ce qu'on ressemble aujourd'hui, nous autres, les Européens?
Moi, je pense que l'Europe a toujours le même pouvoir d'attraction. La preuve, c'est combien de gens cherchent à émigrer vers l'Europe.
C'est parce qu'on est plus riche.
C'est pas seulement qu'on est plus riche. Je dirais que l'Europe n'est pas totalement épuisée, si vous voulez. Il y a encore de la richesse intellectuelle en Europe. À chaque fois que je viens à Paris, je suis quand même ébloui par le
capital des Lumières n'est pas complètement éteint, vous voulez
non,
dire.
Elle n'est pas éteinte, mais vous avez un petit peu ce problème, c'est que vous avez un repliement narcissique sur soi-même. Et l'abandon des idéaux républicains universels. De plus en plus, on dit, non, mais qu'est-ce que tu racontes, Georges? Combien d'amis me disent ça? La Révolution française, la philosophie des Lumières, c'est un produit localisé, ici, franco-européen. Mais je me dis, mais c'est pas vrai. Ça a fait le tour du monde. Ça a abattu des empires. L'Empire chinois, comment est-il tombé ? L'Empire ottoman, comment est-il tombé ? L'Empire des Habsbourg, comment est-il tombé ? Sinon, par la force de ses idées. Ça a changé la face du monde. Il y a cette espèce de repli paresseux et narcissique à la fois. Et je me souviens de cet ouvrage témoin, clé, de Jean-Christophe Ruffin, « L'Empire et les nouveaux barbares ». Le tiers-monde, c'est les barbares, laissons-les, protégeons-nous, protégeons l'Europe. Ça, c'est grave, ça, c'est dramatique.
Le repli nationaliste, oui, et le repli européen, quoi.
Oui, oui, oui.
C'est
oui.
Un nationalisme en plus grand.
Et Huntington est venu, si vous voulez, un peu couronner. Bon, n'essayons pas d'imposer nos valeurs aux autres, c'est pas la peine, protégeons-nous. Alors ça, si vous voulez, bon, faut pas revenir à... Si vous voulez, à ce qu'on a vu pendant la période coloniale, où au nom d'idéaux civilisationnels supérieurs, on a colonisé des peuples entiers. Mais si vous voulez, il ne faut pas que la noblesse des principes posés par Kant, posés par l'abbé de Saint-Pierre, posés par Voltaire et d'autres, n'est-ce pas, soit instrumentalisée dans l'ordre international, de la façon dont ils le sont aujourd'hui. On a des bons dictateurs et on se tait sur eux parce que c'est nos alliés géopolitiques. Et puis ceux qui ne sont pas nos alliés, qui ne font pas notre politique, on va leur casser la gueule à coups de cris sur les droits de l'homme. Ça discrédite les droits de l'homme.
On va pas du tout dans ce sens-là. Ce qu'on appelle la mondialisation, ce qu'on appelle la globalisation, à l'inverse de ce que vous souhaitez.
Oui, mais la mondialisation, elle est aussi en train de s'essouffler. Elle s'essouffle sérieusement. Je pense qu'il y aura des remises en cause. Je pense que la crise actuelle en Europe est salutaire. Combien de temps on va pouvoir garder ces peuples européens sous la coupe de la Banque Centrale Européenne, du Fonds Monétaire International, de la bureaucratie de Bruxelles? Je crois que c'est à France Inter. J'étais dans le taxi le matin, j'entendais un reportage France Inter sur la Grèce,
oui,
qui faisait parler des Grecs. C'était la chef du département archéologie de la République grecque qui disait « Mon salaire est tombé de 1200 euros à 800 euros ». C'est invraisemblable. Moi, je pense que ça ne durera pas. D'ailleurs, quand il y a eu les premières révoltes arabes, j'ai fait une libre opinion dans Le Monde où j'ai dit « Européens, inspirez-vous des révoltes arabes. Il faut que les deux rives se révoltent. » Parce que aussi, les révoltes de ce côté de mon côté de la Méditerranée sont le produit d'un néolibéralisme de façade qui a accru la corruption, la concentration de richesses aux mains de quelques-uns et les injustices sociales. Donc je pense ici qu'il faut justement qu'on rapproche les luttes dans les deux rives pour obtenir un monde euro-méditerranéen.
Mais depuis 3-4 ans, si on se limite à la Grèce, les Grecs n'ont pas cessé de lutter. Des quantités de manifs, c'est des gens qui ont des syndicats, c'est des gens qui ont des partis politiques, c'est des gens qui sont pas bêtes, c'est des gens qui sont motivés, qui courent devant cette horreur économique et qui n'aboutissent qu'à des scènes violentes et à de plus en plus de misère. On voit pas le débouché politique pour l'instant. de ce désastre.
Oui, mais moi je pense qu'à terme, voyez ce qui arrive aux Espagnols, ça guette l'Italie aussi demain, et ça guette éventuellement la France. Je pense qu'il va se passer des choses. Le temps historique est un temps long.
C'est agaçant, ça, quand même.
Ça, c'est agaçant, oui. Mais je pense qu'il faut être patient. Et je pense que, justement, plus on travaille à sortir des schémas mentaux appauvrissants, n'est-ce pas, plus on enrichit la réflexion. Et plus on peut aider à ce que ces mouvements se développent. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on souffre encore la déconsidération, de l'épuisement de l'ancien souffle des idéologies communistes, qui étaient à l'origine généreuses, qui voulaient sauver l'humanité, on en parlait il y a 5 minutes. Et donc, il faut reconstruire, il faut reprendre un nouveau souffle qui n'est pas les simplifications qu'avait le marxisme autrefois, n'est-ce pas, avec les deux classes, des prolétaires qui sauvent l'humanité et puis des bourgeois qui sont des affreux à condamner. D'ailleurs, dans mon livre sur l'Europe et le mythe de l'Occident, je dis ce racisme anti-bourgeois avait quelque chose d'énervant aussi. Donc, je pense qu'il y a autre chose à reconstituer. Et pour cela, alors, il faut qu'on écarte toutes ces considérations d'identité religieuse ou autre.
Et nationale aussi.
Oui.
Identité nationale aussi.
Alors, dans le précédent livre qui était Le Nouveau Gouvernement du Monde, je dis qu'il faut réfléchir sur les cohésions spatiales. Mmh. Et moi, ça ne m'étonne pas que la Catalogne aujourd'hui dise « moi, je veux mon indépendance », que la Lombardie recommence à dire en Italie « moi, je veux mon indépendance ».
Ça, c'est les régions riches qui ne veulent pas payer pour les autres.
Ce sont les régions qui ne veulent pas. Ouais, qui ne veulent pas.
Est-ce que vous l'Écosse, est-ce que vous la Bavière c'est...
Oui, absolument. Mais une des raisons du démantèlement de la Yougoslavie aussi, c'était que les richesses étaient côté croate et slovène, qui ne voulaient plus payer
pour
les Serbes et les Bosniaques.
Bah oui, hein. Oui.
Oui, mais alors à ce moment-là, il faut expliquer ces choses-là, il faut en parler, il faut dénoncer les aspects nocifs de la mondialisation, bien expliquer ce qu'on ne fait pas, que le progrès technique, avec ou sans la mondialisation, le progrès technique marche. Le nombre de grands progrès techniques qui se sont faits, alors qu'il n'y avait pas de mondialisation, l'invention de l'imprimerie, par exemple, de la machine à vapeur, plein d'inventions. Il faut séparer les deux choses. Ce n'est pas la mondialisation qui fait progresser la science et la technique. La science et la technique, elles progressent parce que l'esprit humain est curieux, l'esprit humain est actif. Or, aujourd'hui, on a créé cette peur. Si on arrête la mondialisation, le progrès technique va s'arrêter.
Georges Gorme, une dernière question. Hélas, on n'a pas assez de temps, j'en étais sûr. Mais à travers ce travail que vous avez fait sur l'Europe, d'une façon générale d'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que nous progressons ?
Ah, ça c'est...
C'est une heure encore, il faut...
Ouais. Non, je pense que pour le moment, le sentiment qu'on a, c'est que tout va mal.
Non, mais je vous parle du temps long là. Est-ce que vous nous parlez du temps long?
Est-ce
que
sur le temps long, regardez, est-ce que malgré tout ce qui se passe sur le plan arabe, par exemple, je pense que les batailles qui se déroulent en Égypte, en Tunisie, sont des batailles majeures dont l'issue va déterminer le sort du monde arabe pour les 100 ans à venir. Je pense que les batailles qui se déroulent au niveau populaire en Grèce, en Espagne ou ailleurs, en Europe, sont aussi des batailles majeures. Alors, où est-ce qu'on va en arriver ? Ben non, nous n'avons pas eu le temps de parler des États-Unis.
Mmh. Oui,
qui fait sont le joueur majeur, oui,
oui, de l'Occident.
Et qui a dans ses filets toute l'Europe. Mmh. Moi, ce que je plaide d'ailleurs à la fin du livre sur l'Europe et le mythe de l'Occident, c'est que l'Europe doit retrouver son indépendance d'esprit par rapport aux États-Unis. Le suivisme actuel par rapport aux États-Unis, la fascination de l'Empire américain,
ça reste
à mon avis,
très fort.
Ah oui, et c'est très négatif pour l'Europe.
Oui,
c'est très, très négatif.
Il y a une décolonisation des esprits à opérer.
Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'un empire fascine. Moi, je prends même au niveau des élites arabes. 80% des élites arabes sont fascinées par l'Empire américain. Et combien d'Arabes émigrent ? Vous avez des élites du monde entier qui émigrent aux États-Unis. Et c'est pour ça que je ne crois pas à la décadence prochaine des États-Unis, contrairement à beaucoup de bons esprits. Moi, je suis pour les formules d'empire. Quand ils sont à l'aise, quand ils sont justes, quand il y a... Et quand ils sont, si vous voulez, au sommet de leur puissance et qu'il n'y a plus de contestation, c'est la paix.
Vous pensez à l'Empire ottoman, par exemple ?
Je pense à l'Empire ottoman, à l'Empire austro-hongrois. Et là, vous pouvez faire vivre ensemble les communautés religieuses, les ethnies, et tout se passe très bien. Si vous voulez, dans le nationalisme jacobin un peu fort, je ne suis pas un partisan absolu. Il faut savoir respecter les diversités. Les diversités disparaissent avec le développement économique et social. Aujourd'hui, si dans le monde arabe, on a encore ces phénomènes communautaires ou ethniques forts, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'industrialisation. L'industrialisation n'est pas passée par là. Et donc, à partir du moment où l'État moderne échoue dans l'industrialisation, il ne peut plus être un État redistributeur et juste, donc vous avez le repli sur la communauté et vous avez recours au chef communautaire pour pouvoir survivre, pour pouvoir obtenir un minimum de droits. Ce n'est pas une espèce de fatalité génétique. Or, le problème aujourd'hui de toutes les analyses, c'est qu'elles font ce que j'appelle l'anthropologie de café. Et elles ne regardent pas du tout le facteur économique et social.
Georges Corme, si, en parlant avec Noam Chomsky, il disait ce qui caractérise notre époque, il disait par rapport à ma jeunesse, disait-il, c'est la disparition de l'espoir, de l'espérance. Et dans sa jeunesse, et on le sait bien, on pensait qu'on allait modifier les choses, on s'engageait avec véritablement une foi dans notre capacité à agir sur notre devenir, sur la partie non fatale du devenir. Et il disait aujourd'hui, non, cette espérance-là a complètement disparu. C'est ce qui caractérise l'époque. Est-ce que c'est votre point de vue aussi ou est-ce que vous êtes un optimiste?
Non, mais moi je dirais, ça dépend pour qui. Moi, quand je vois... je viens d'un pays où il y a beaucoup d'émigrés. Bon. Quand je vois des émigrés qui font des carrières fabuleuses dans des grandes banques internationales ou dans des grandes universités américaines ou qui deviennent des scientifiques de haut niveau, ceux-là n'ont pas perdu l'espoir. Ils trouvent que tout va très bien.
Oui.
Donc, ça dépend pour qui. Malheureusement, il y a des gagnants et des perdants. Alors aujourd'hui, les perdants sont beaucoup plus nombreux, à mon avis, que les gagnants. Mais les gagnants sont très forts, parce qu'ils ont les leviers de commande partout. Mm-hmm. Vous avez cette symbiose du pouvoir de l'argent, du pouvoir médiatique et du pouvoir politique, mm-hmm. qui fait que le changement est très difficile. Mais personnellement, je pense qu'on y arrivera un jour. Il faut être patient. On revient à l'histoire. L'histoire est lente. Et puis tout d'un coup, elle peut, on donne l'impression de s'accélérer, parce qu'il y a eu des événements préparatoires... Et là, dans le livre aussi sur le nouveau gouvernement du monde, je dis, est-ce qu'actuellement, par exemple, le mouvement altermondialiste, c'est un peu comme le mouvement en France qui a précédé la Révolution française, les cahiers de doléances qui étaient adressés au roi, n'est-ce pas, par les différentes provinces françaises. Je pense qu'on est dans une période où on peut. Il y a une possibilité qu'il y ait de gros changements. Vous avez des personnalités qui sont des personnalités réformistes, qui ont occupé des très grands postes dans le système mondialisé, et puis qui ont réalisé que ça n'allait pas du tout, et qui sont devenus des personnes très critiques. Vous prenez Stiglitz, par exemple, l'économiste américain. Vous prenez Frédérico Mayor, vous prenez... Et on en trouve beaucoup, n'est-ce pas? Bon, évidemment, l'histoire ne se répète jamais de la même façon, mais... Aujourd'hui, il y a une contestation qui se développe un peu partout sur la façon de gérer le monde. Et il y a des chances pour que cela débouche quand même. Il faut jamais perdre espoir. Si vous perdez espoir, il vous reste plus que le suicide finalement.
Merci beaucoup, Georges Corme.
فاذهب واسأل هذا النائم في سفح الجبل الشاهق ماذا تفعل في عاصمة الشيطان هنا أي خرائط تملكها في هذا الطوفان أي لم يسمع ضجتهم
Voilà, merci à Georges Corme. Je rappelle le titre de son bouquin, celui-là, L'Europe et le mythe de l'Occident. C'était le deuxième volet de cet entretien avec cette rencontre avec Georges Corme. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez sur cette page réécouter cette émission ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, et vous pouvez faire des commentaires sur ces deux pages et ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Defar Guérit, c'est Lucie Acoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau, montage Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et puis on apprend que le dessinateur ciné, à son tour, partirait en Belgique, irait s'installer en Belgique si nos renseignements sont bons. Avec tout l'argent qu'il vient de gagner dans son procès contre le journal Charlie Hebdo. La cour a condamné le journal à verser 90 000 euros de dommages et intérêts et 15 000 euros pour les frais de justice au dessinateur ciné. Donc, avec tout cet argent, il serait question qu'il s'installe à son tour en Belgique pour se planquer, réclame.
Chaque année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. Un jeune sur quatre est au chômage. L'heure n'est plus au constat, il est urgent d'agir. La Fondation Apprenti d'Auteuil soutient les jeunes et leurs familles pour les aider à reprendre confiance, à se reconstruire et trouver leur place dans la société. Ensemble, mobilisons-nous pour la jeunesse en difficulté sur apprenti-auteuil.org.
Cyril Lignac, comment aimez-vous le foie gras ?
Moi, je l'aime du sud-ouest. D'abord, je suis certain de son origine, et puis question saveur, c'est unique. Tenez, goûtez. Ah, vous aussi, vous l'aimez, le foie gras du sud-ouest.
IGP Canard à foie gras du sud-ouest, c'est écrit, c'est garanti.
Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Aquitaine.
Vous vous souvenez de la phrase fameuse de Swift qui disait « L'homme fait les mêmes gestes pour ramper et pour grimper ». On y pensera demain avec Olivier Sabi, l'auteur de Promotion Uburois, une étude et un journal intime d'un énarque. Ce sera à 15h dans la base où j'y suis. À demain donc, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Voilà qui met un terme à l'affaire. L'armateur allemand du chalutier, soupçonné de la plus grosse infraction à la législation sur la pêche jamais constatée en France, a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Cherbourg à 580 000 euros d'amende. Il devra aussi verser 15 000 euros de dommages et intérêts au comité régional des pêches de Basse-Normandie. Cette décision du tribunal met fin à la procédure. Donc, le navire pourra quitter le port une fois l'argent versé, probablement demain, selon son propriétaire. Hier, il était sous le coup de plus d'un million d'euros de caution à verser pour juste quitter le port. Les assurances de téléphone portable sont souvent chères, souscrites dans des conditions d'information insatisfaisantes et offrent des garanties très limitées. C'est ce qu'il ressort d'une étude menée auprès d'Orange, SFR, Bouygues, Carrefour, Phonehouse, La Poste, la Fnac et LCL par UFC Que Choisir. Il s'agit là d'une véritable imposture selon le président de l'association de consommateurs. L'UFC évalue à 432 millions d'euros par an le chiffre d'affaires de l'assurance des mobiles, alors que le montant des indemnisations atteint lui 77 millions d'euros. Bouygues a immédiatement réagi. L'offre sur laquelle a été menée l'étude n'est plus commercialisée. La commission des finances de l'Assemblée a adopté aujourd'hui un amendement qui repousse d'un an la hausse de la TVA de 7 à 10% pour les constructions de logements sociaux. L'application se fera donc en 2015 et non en 2014. Mais pour être validé, cet amendement doit encore être adopté aujourd'hui lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative. Projet de loi qui contient notamment le crédit d'impôt de 20 milliards d'euros pour améliorer la compétitivité des entreprises et donc la refonte des taux de TVA. Texte qui a été au passage rejeté par le Sénat samedi. Il n'y aura pas de liberté de vote pour les députés socialistes lors du débat sur le texte du mariage pour tous. Explication de texte formulée aujourd'hui par Annick Le Petit, la porte-parole des députés PS. La réforme doit aboutir, dit-elle. En revanche, les amendements au texte seront, eux, déposés demain et parmi eux, celui autorisant la procréation médicalement assistée. Non à l'euthanasie et au suicide assisté, mais dans certains cas, on peut, d'un geste médical, accélérer la survenue de la mort. Il s'agirait là d'apporter une sédation terminale lucide à la demande du patient. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le rapport Sicard sur la fin de vie. Le professeur Didier Sicard l'a remis ce matin à François Hollande. Il y préconise donc la mise en place de bonnes pratiques de médecine responsable, ce qui correspond plus, selon lui, à un aménagement de la loi Leonetti de 2005 qu'à une nouvelle législation. Le chef de l'État a quand même promis un projet de loi pour la fin juin. La société Tom Guillaumarche annonce aujourd'hui le retrait de deux lots d'andouilles pour des risques de listeria. Elles ont été vendues directement à l'usine de production de Fouesnant dans le Finistère, aux boucheries, charcuteries et en grande surface de 7 départements. Pour plus de détails, un numéro de téléphone a été mis en place, le 02 98 56 17 23. Une nouvelle station de métro à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Elle a été inaugurée aujourd'hui sur la ligne 12 du métro parisien. C'est la 302e station. Elle doit accueillir à terme près de 15 000 voyageurs par jour selon la RATP. Et elle permettra ainsi d'aller à la gare Saint-Lazare en 16 minutes et à Montparnasse en 28 minutes. On y croit. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dorda reçoit... Baden Baden.
I am not them and I didn't want to be them.
Balthazar.
All old friend of mine. Well, I get somewhat behind.
Et Eric Truffaz.
Come over, let us blow away.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre.
Allez, bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, ça y est, ça approche, il faut chercher des cadeaux et pourquoi pas de la musique, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses aussi. Il y a des coffrets qui sont parus assez récemment, par exemple on peut proposer ou se proposer à soi-même d'ailleurs l'intégrale pour piano seul de Robert Schumann par Éric Lesage, ben, c'est très très bien joué, c'est un coffret sobre certes, mais il y a toutes ces pièces là qui sont toutes d'une diversité, d'une richesse absolument incroyable. Le personnage était absolument insondable et je vous propose le 6e intermezzo, intermède français, opus 4 de Robert Schumann, plein de frénésie et on dirait aujourd'hui d'hyperactivité.
Thank you.
Robert Schumann, 6e intermezzo, opus 4, par Éric Lesage, qui nous offre aussi, bien sûr, c'est indispensable, la fantaisie pour piano en do majeur du même Schumann, un long cri d'amour envers Clara, puisque à cette époque-là, Clara et lui ont été séparés, parce que le père de Clara Wieck voulait absolument qu'il réfléchisse, soi-disant, enfin c'était une manière, évidemment, de l'écarter, Robert, et donc il a souffert énormément, et il a envoyé cette lettre musicale, on peut dire, cette missive, bouillonnante, pleine de tendresse, pleine d'intensité aussi. Et je vous propose un extrait, le début du premier mouvement intitulé « À jouer », enfin en tout cas noté, ce sont des conseils d'interprétation ou même des exigences, « À jouer d'un bout à l'autre de manière fantastique et passionnée ».